Vous écoutez France Musique.
Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle année du Matin des musiciens que nous recommençons en compagnie de Ludwig van. Je ne désespère pas que nous arrivions sur plusieurs années, ça fait déjà quelques années qu'on y est, à une intégrale des sonates. Mais comme vous savez, il y a des musiciens qui aiment à jouer telle et telle sonate et qui sont reluctants quand on leur propose, je ne sais pas, la sonate numéro 4, opus 7, Miguel Levinas, vous n'avez pas refusé de la jouer, non, vous allez la jouer bientôt.
Je vais la jouer au mois de février,
me semble. En février, voilà. Alors aujourd'hui, on attaque l'année par l'opus 10 numéro 3, qui sont trois sonates, comme l'opus 2, trois sonates. Et alors ces trois sonates ont été écrites entre 1796 et la fin de juin 1798. On n'en sait pas plus. Elles ont été publiées toutes les trois. Il y en a deux qui ont trois mouvements. Et puis, il y en a une qui a quatre mouvements. C'est la nôtre de ce matin, l'opus 10 numéro 3 en ré. Alors, vous me disiez, parce que je ne trouvais pas de traces dans les documents que j'ai lus, vous me disiez, Michael, qu'il était vraisemblable que Beethoven ne l'avait pas joué, celle-là. Vous pensez pourquoi cette...
J'ai tendance à penser qu'il ne l'avait pas joué parce qu'il y a dans l'écriture du piano de Beethoven un passage progressif à des phénomènes plus globaux et moins, je dirais, moins distanciés par l'écriture conjointe. Tout ce qu'on trouve à la fin du XVIIIe siècle dans l'écriture du clavier. Et j'ai tendance à penser comme une sorte de radiographie du jeu de Beethoven quand je regarde Au clair de lune, quand je regarde la Passionata, qu'il y a un grain sonore imaginaire du piano de Beethoven, qui est un grain d'une sorte de, excusez-moi, une sorte, oui, de compositeur pianiste qui fait le passage au monde romantique de l'instrument et dont le jeu ne me paraît pas un jeu, on dirait aujourd'hui perlé, ou on dirait un jeu, on disait au XXe siècle, on s'imaginait d'ailleurs que c'était ça le jeu du clavier, un jeu claveciniste, c'est-à-dire le passage. C'est une œuvre qui semble lié tout de même à une facture instrumentale à l'origine, qui est vraiment une facture très pianofortiste. Et je pense que Beethoven n'avait pas un jeu très clair, pour vous dire les choses très franchement.
Alors, c'est l'édition originale, septembre 98, 1700, trois sonates pour le clavecin au pianoforte, composées et dédiées à Madame la Comtesse de Braun, née de Wittinghoff, par Louis van Beethoven, œuvre 10. Donc, c'est publié. Clavecin ou pianoforte. Bon, on vous écoute, Michael, non pas sur un clavecin ou sur un pianoforte, mais sur le piano du studio 118, où nous faisons toujours le matin des musiciens, enfin la plupart du temps, et vous jouez donc le premier mouvement presto à sébarré. Ça veut dire quoi, sébarré ?
Sébarré, c'est-à-dire que c'est pas 1, 2, 3, 4, c'est 1, 2, 3, 4. C'est-à-dire qu'il y a une pulsation tous les deux temps, et souvent très levée. Elle est très très importante et il arrive d'ailleurs parfois qu'en fin de compte, mais ça on ne le dit pas, mais que ce serait une mesure à quatre temps est en réalité une mesure à un temps levé. Et dans cette sonate, d'ailleurs comme dans beaucoup de sonates de Beethoven, la pulsation est extrêmement mobile entre quelque chose qui est divisé par quatre ou par deux ou même par un. Quand vous regardez des techniques de chef d'orchestre, vous voyez que dans tous les répertoires, tous les grands chefs d'orchestre, et les grands musiciens, les grands interprètes ont une extrême mobilité dans cette œuvre-là. Il y a des fois, malgré tout, où il faut penser ça avec une articulation de quatre. Par exemple, ça, et ensuite, c'est par deux. Vous voyez ? Donc, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3... Vous voyez toute la mobilité de l'articulation
donc,
de quatre.
Maintenant que vous nous avez dit ce que c'était que sébarré avec exemple à l'appui, je vous propose de jouer ce presto initial de la sonate opus 10 numéro 3 en ré majeur de Ludwig van Beethoven. Merci Michael Levinas pour ce premier mouvement de la sonate opus 10 numéro 3 en ré, le presto initial. Ce qui me fascine à la réécoute de cette musique, c'est que on pourrait dire de manière métaphorique, mais vous allez le dire avec les outils que vous avez et que je n'ai pas, il n'y a pas de gras dans cette musique.
Qu'est-ce que vous appelez gras, Jean-Pierre
ce qu'on a dans les mauvais compositeurs de la fin du 19e, où il y a des tas de parties intermédiaires qui masquent une absence de pensée, de réalisation. Je vois Michael qui sourit. Alors,
oui,
dites-moi.
Non, je vais vous en parler. Bon, ce qu'on peut dire de cette sonate, effectivement, pour un interprète, j'ai un terme, je ne sais pas si je vais me faire bien comprendre en disant ça.
Je ne comprends pas, je vous reposerai la question.
Je dirais que cette sonate est, en tout cas le premier mouvement notamment, mais le dernier mouvement, on en parlera, est surcomposée. À la fois, c'est une démonstration totale d'une forme sonate, avec un premier, un second thème, un système modulant, un développement, une réexposition.
Bon, et tout ça, c'est dans l'ordre, en somme.
Tout est dans l'ordre.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre ?
Et il y a d'autre, le fait que ce sont des microstructures. Si on regarde une microstructure parmi les nombreuses de la sonate...
Alors, qu'est-ce que vous appelez une microstructure ?
Regardez, c'est le thème ? Eh bien, on va tout de suite le dire, parce que ça ne sera pas de ça qu'on parlera vraiment. Mais je préfère qu'on en parle tout de suite. Eh bien, évidemment, dans cette sonate, vous avez une puissance conceptuelle qui est écrasante pour l'interprète et qui, éventuellement, n'est pas satisfaisante en termes d'interprétation et d'expressivité. Vous avez une articulation, c'est-à-dire une anacrouse. On peut dire que on pourrait, et c'est sûrement ce qui s'est passé pour Beethoven et ce dont nous parlerons peu, ce que nous dirons dans cette sonate, probablement, c'est comment le travail de l'interprétation et du jeu sur l'instrument moderne arrive à transformer cela en expressivité. Et même, on dirait, comment la forme trop rigoureuse, trop évidente, ce que vous appelez l'absence de gras, peut devenir musique, parce que ce n'est pas évident. C'est-à-dire une forme combinatoire complexe, savante... Alors, n'est pas la clé d'entrée. Regardez ça. Voilà. Ces éléments-là que nous voyons, on les retrouvera dans le final. Bon. Cela veut dire que, en réalité, il y a une structure, comme on le sait, et ça, je pense qu'on en parlera beaucoup dans l'année, dans votre émission sur l'intégrale Beethoven, il y a ce qu'on appelle des structures génératrices chez Beethoven, des éléments cellulaires
très puissants. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une structure génératrice ?
Eh bien, c'est quelque chose sur lequel je voudrais qu'on ne s'attarde pas trop, mais qui est très importante. Non, parce que c'est évident que je voudrais montrer dans cette émission comment j'ai travaillé pour essayer de la dire au public, de la dire sur le piano, comme un acteur de théâtre, si vous voulez, qui lit un texte et qui doit le dire sur un estrade. Ce n'est pas la même chose. Alors évidemment, la structure génératrice, c'est quelque chose qui fait que, entre les mouvements des sonates, il y a une unité. Ça, c'est un des grands enjeux, soi-disant, je ne crois pas que ce soit aussi simple, de la forme sonate beethovenienne. Et évidemment, cette cellule-là, si vous voulez, en soi-même, est quelque chose qui est générateur de l'ensemble de la sonate. Et on retrouvera d'ailleurs même ça dans le scherzo, où on a la notion de l'anacrouse. Hein. Ou bien...
Alors, à ce moment-ci, j'ai envie de vous poser la question initiale. Anacrouse, comment vous définissez ?
L'anacrouse, c'est quelque chose dans une périodicité, si vous voulez, qui anticipe. C'est ce qui va, on peut le regarder dans le dictionnaire, une anacrouse, c'est très clair, c'est comme un préfixe presque, si vous voulez, c'est ce qui est avant et qui va introduire rythmiquement. Si vous voulez, on a un rythme. Alors l'anacrouse, le raid aussi, sera l'anacrouse de la série.
Est-ce qu'on dirait que le presto, par exemple, la première noire, qui est sur une levée est une anacrouse ?
Absolument. Et on pourrait croire, et d'ailleurs quand j'ai enseigné avec des étudiants sur cette sonate, on pourrait croire, et d'ailleurs ils ont raison de le penser, que Beethoven a vraiment composé, ce que j'appelle surcomposé, en utilisant l'anacrouse comme une cellule génératrice. Par exemple, dans la pathétique, c'est beaucoup plus clair. Le deuxième thème... qui est là, la cellule génératrice qui fait... Et progressivement, bon, il faut qu'on se le dise en début d'année, c'est qu'on dit, il est coutume de dire, en tout cas au XXe siècle, très axé sur la formalisation et sur l'histoire de la forme sonate, puisque vous voyez bien que la forme sonate va engendrer trois grandes sonates chez Boulez et également dans l'opus 21 de Webern. C'est-à-dire que la sonate, c'est un archétype du développement. Et le développement est considéré chez ces compositeurs comme Beethoven comme celui qui a évidemment eu cette puissance conceptuelle. Le leitmotiv wagnérien est également considéré par les grands néo-sériels, on va dire encore une fois Boulez, comme le prototype de l'idée musicale génératrice de toute une forme et du temps.
Alors vous me dites qu'il y a deux thèmes. Quel est normal, pourrait-on dire, dans une certaine histoire de la musique ? Il y a deux thèmes, il y a une réexposition, il y a un développement et une réexposition.
Alors là, c'est très, ça devient très aussi assez compliqué. Il est de coutume de considérer dans ces formes, mais je voudrais vraiment, Jean-Pierre Derrien, que nous abordions le passage de l'analyse à l'interprétation. Bien sûr, vous avez des fonctions tonales dans cette musique. Par exemple, vous êtes en ré majeur et vous avez, on va passer à la dominante. Voilà. Et la règle de la forme tonale, mais alors on va en dire quelques mots très rapides, fait que ce deuxième thème qui était à la dominante dans la première partie, dans la réexposition, va revenir évidemment en ré majeur.
À la tonique.
Voilà, bon. Alors, on va tout de suite le dire, ce qui est très très puissant dans le système tonal, très fascinant, et je crois que c'est un enjeu très contemporain, même dans les conflits entre compositeurs, c'est que le système tonal a une puissance temporelle, c'est-à-dire que la mémoire des tonalités est quelque chose de fascinant, et que d'autre part, chez un très grand créateur comme Beethoven, mais aussi chez Mozart, et on a entendu cette semaine les trois dernières symphonies, d'ailleurs avec la Philharmonique de Berlin, et c'était fascinant, c'est que depuis la fin du XVIIIe siècle, sans doute sous l'influence, à mon avis, de la sophistication tonale d'un compositeur de la fin du baroque comme Bach, chez Beethoven et chez Mozart, mais chez Beethoven encore plus, le système tonal est un système où il y a comme des clairières. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, une exposition, ré majeur, très intéressant parce que le système que nous venons d'entendre, c'est que nous arrivons, on va dire, une sorte de question, c'est-à-dire un antécédent et, on va dire, le conséquent, comme question-réponse. Et alors, le système tonal veut que, chez un très grand créateur du système tonal, les grands découvreurs, en ce sens-là, ils sont très importants, ce sont des clairières. Et donc, le même motif qui était une question, on va parler de manière très pédagogique, va moduler vers un ailleurs. Le même motif va bouger. Et c'est très spectaculaire. Par exemple, dans la sonate Appassionata, je ne sais pas qui la jouera cette année dans votre émission, on a... Et on va bifurquer, le système tonal va aller vers une clairière, un ailleurs. Or, cet ailleurs, en réalité, est un ailleurs qui détourne cette question de l'antécédent et du conséquent. Et en réalité, ça nous ramène vers Fa mineur parce que c'est une napolitaine. Ça, c'est des questions techniques, mais c'est là qu'est une des puissances. Mais tout ça ne nous donne pas la clé de l'interprétation.
J'aimerais vous poser une question à ce moment-ci. Quand vous parlez de clairière, j'observe que dans cette sonate, vous avez donc les trois premières mesures, il y a un sforzando avec un point d'orgue. Et puis quelques lignes plus bas, il y a encore une figure avec un point d'orgue. Est-ce que ça fait partie de ces moments
alors,
où ça pivote ?
Maintenant, je vais vous parler de manière, et à l'auditeur aussi, d'une manière, je dirais, plus pratique de la question de l'interprétation de cette sonate qui, à mon avis, pose des questions très, très cruciales à pas mal d'interprètes. J'ai entendu certains grands interprètes avoir des accidents dans cette sonate pour des raisons qui sont profondes, qui sont le fait qu'elle est à la fois surcomposée et trop évidente et presque trop systématique, mais elle n'est pas que ça. Mais pourtant, il y a cette puissance. Et nous allons, c'est là qu'on va en dire un mot, si vous permettez. Effectivement, j'ai eu coutume, dans mon intérêt pour Beethoven et l'intégrale et tout ce que j'ai fait autour de cet auteur, d'avoir l'attraction pour deux éléments qui n'étaient pas son formalisme et qui n'étaient pas, dans un premier temps, sa puissance combinatoire, mais qui étaient la question de la surprise et du bouleversement. C'est-à-dire quelque chose qui fait que, dans cette musique, à un moment donné, le processus devient visionnaire et crée une sorte d'enthousiasme artistique. Par exemple, les bouleversements harmoniques, ou bien par exemple, voilà. Et j'ai toujours eu tendance à penser que l'idée musicale n'était ni la cellule génératrice, ni les thèmes, ni la combinatoire, mais l'idée musicale, ça c'est très révolution française, c'est très, c'est-à-dire c'est très presque bonapartiste, si je puis dire, comme un militaire, le génie militaire ou le génie visionnaire du bouleversement du système, ce qu'ont d'autres appelé l'accident, était ce que j'ai cherché dans cette musique.
Et maintenant, vous cherchez autre chose ?
Alors, je prends cette sonate. Effectivement, cette sonate n'a pas cette dimension. Et pourtant, il y a quelque chose de l'insolence du premier Beethoven qui m'a tout de suite sonné, c'est-à-dire ce... Et cet élément-là, voilà, ces éléments-là, ce sont des éléments d'aventure harmonique qui entraînent vers quelque chose auquel on ne s'attendait pas. Mais le bouleversement n'arrive pas. Mais il y a ce côté conquérant, ce côté esprit d'Arcole napoléonien dans cette manière dont ça évolue. Et ça, évidemment, c'est un point sur lequel je me suis toujours structuré pour accrocher l'interprétation beethovenienne. L'autre point, puisque vous commencez cette année une série, c'est qu'effectivement, j'ai été très marqué, je m'en suis exprimé dans plusieurs émissions chez vous, sur le XVIIIe siècle et sur le pianoforte. Cette année, je vais faire une intégrale de sonates de Beethoven à Paris. Et pourquoi je la fais ? Parce que j'ai compris, malgré tout, que ce piano moderne, il y a cette quête de la modernité chez Beethoven, cette quête, un texte qui est porté par l'instrument dans son évolution. Et donc, ce que je vous ai fait entendre est tout de même une version pour piano moderne, qui est un piano, bien entendu, j'ai vécu le dépaysement pianofortiste, mais un piano moderne, alors sur lequel, maintenant, je vais expliquer quelques points à regarder.
Alors,
vous m'avez parlé du la et du fa dièse. Du la et du fa dièse, c'est-à-dire un arrêt. Et ensuite. Absolument, absolument. C'est là que je suis rentré instrumentalement dans la sonate. Alors, comment ? On va regarder la physionomie du début de la sonate, si vous permettez.
Je vous écoute, moi.
J'ai constaté, bon, je travaille beaucoup avec enregistrement, j'ai constaté qu'il y avait un phénomène résonnant sur le piano qui était ça, un la. C'est très important quand on travaille un instrument. Maintenant, redoublement sur quatre octaves d'un la et qui va être transporté. Et d'autre part, qu'il y avait dans cette figure, comme chez les très grands peintres ou des très grands sculpteurs, un mouvement qui va du la au la. Et quand j'ai trouvé ça, j'ai vu également qu'il y avait un mouvement pianistique, je veux dire de claviériste, si vous voulez, qui faisait ça. Et... Et par conséquent, l'élément instrumental arrivant sur ce La, dans le Ré Do Si La que je vous ai fait entendre, est transformé en Sixte.
Alors là, Michael, où je ne vous suis pas, où je ne vous ai pas
Mais
bien
si
suivi, en quoi le piano moderne a-t-il à voir là-dedans?
Parce que
il libère
si vous entendez,
plus d'harmonique.
Si vous entendez cette octave, vous l'entendez l'octave. Vous entendez ensuite ça. Alors très curieusement, ces deux, ces trois notes, fortissimo, fortissimo et fortissimo sur le point d'orgue. Vous savez, c'est comme ça que je suis rentré dans la sonate. C'est comme ça que je suis arrivé à l'interpréter, c'est-à-dire la dire, aller sur l'estrade. Ça, ces fameuses octaves beethoveniennes d'une période ultérieure qu'on retrouve dans la sonate opus 106. C'est-à-dire, il y a cette modernité de l'octaviation, dont on sait très bien qu'on retrouvera cette octaviation, notamment, et qu'on retrouvera d'ailleurs chez Schubert, et qui a influencé Liszt. Bon, on va, c'est très vertigineux, hein, tout ça. Mais enfin, résultat, c'est qu'on a un passage d'un son très important, de double octave, ou du troisième concerto de Beethoven, alors, maintenant, autre chose, eh bien, ce motif-là va se diviser instrumentalement parce que les six qui sont tellement présents dans l'écriture brahmsienne et dans toute l'histoire de la musique allemande va se transformer. C'est très très important. Vous avez une ligne. Le pianiste, il va se demander. Il se fait sortir ça. En fin de compte, c'est là d'ailleurs qu'un certain soliste se sont cassé la figure. C'est qu'on a un vertige parce qu'on a un monnayage de six qui suit. Et puis on a une sorte de résonance sur l'instrument. Et là, l'instrument moderne est formidable pour ça. On a d'abord le La, ensuite, et les croches vont donner une figure pour un pianiste extraordinaire, c'est-à-dire une figure alternée. Une figure alternée qui fait ça. Figure alternée qu'on retrouvera beaucoup, beaucoup dans le piano du 19e siècle. Par exemple... Même chez Mendelssohn, déjà, on a déjà ces techniques d'alterner. Elles sont ici. Alors, deuxième point, il y a un arrêt, une suspension. C'est ça, l'entrée dans cette œuvre-là. L'octave, la batterie. La batterie qu'on retrouvera dans l'opus 13 de Beethoven.
La pathétique.
La pathétique. Thank you.
Enregistré en concert en octobre 1980, c'était Émile Gilels dans le premier mouvement de la sonate, la grande sonate pathétique, c'est le titre de l'édition, opus 13 en ut mineur de Beethoven, qui est contemporaine de celle qui nous occupe ce matin sur France Musique, puisqu'elle date de 1797-98, donc comme les sonates de l'opus 10 en particulier, celle que nous traitons ce matin sur France Musique en compagnie de Michael Levinas, l'opus 10 numéro 3. Alors, je reviens à la charge, Michael, sur quelque chose où vous ne m'avez pas répondu, mais je crois que vous allez bien vouloir, c'est les silences. Ce qui m'a fasciné quand je vous ai écouté jouer cette musique, c'est silence après le premier thème, silence quatre systèmes plus loin, silence avec un point d'orgue et une signature d'intensité particulière.
C'est-à-dire que c'est...
Ça veut dire quoi, ça ?
C'est une suspension, une suspension qu'on retrouvera, nous en reparlerons dans le dernier mouvement. C'est une suspension et qu'on trouve également dans la première sonate de Beethoven. On trouve ça... Cet arrêt. Voilà. Et cette suspension, elle est très 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 importante parce qu'on a d'abord le La, ensuite on a le Fa dièse, et ensuite on a de nouveau le La. C'est-à-dire c'est vraiment... C'est... avec un sforzando, et ce sforzando, je ne le fais pas d'ailleurs, mais ce sforzando ne provient pas d'un crescendo. Et ensuite, la seconde fois, on a un alterné, mais un crescendo qui va vers le plus haut.
Alors, Michael, il y a un crescendo, ensuite... mais il y a aussi des silences qui coupent la musique avant d'arriver au forte, au double F.
Silence.
Ce qui est différent de la première.
Oui, c'est ce passage
dont
j'évoquais tout à l'heure, la sonate opus 106. Et ensuite, nous avons en mineur, et avec un crescendo. Et. Qui est le développement. Et l'autre point, c'est qu'il y a une énergie que le pianiste doit sentir, qui est très spéciale et qui est caractéristique de cette sonate, c'est l'énergie de la gamme. C'est-à-dire que, regardez ce passage-là. Alors, cette gamme qui monte et qui descend, c'est là que ça se situe. Et ensuite, on a ça. Ensuite, en batterie. Avec la fameuse anacrouse. Et ensuite, on a une microstructure. Ça monte, ça descend. Ça monte en crescendo. C'est pour ça que je disais, c'est assez troublant. Il faut aller chercher, si vous voulez, j'ai dit presque ces gestes instrumentaux qui ont d'ailleurs une conséquence sur le piano, sur tout piano. C'est la manière dont on construit le son de la gamme, le son de la vélocité. Chaque œuvre a une sonorité spéciale. Ce qui pourrait être chez un autre auteur. Quand on a entendu Gilels, d'ailleurs, le son est beaucoup plus gras dans la manière de le concevoir. Ou la batterie. Donc, c'est autour de ça que se joue finalement, l'expressivité, derrière un système évidemment musical très formalisé et très fascinant, je pense, pour les compositeurs du 20e.
Alors, vous qui êtes un compositeur du 21e, Michael, on va passer au deuxième mouvement, Largo e Mesto, qui est à 3 cette fois-ci, et que moi j'entends un peu comme une scène d'opéra alternée entre Orphée qui réclame Eurydice. J'ai l'impression que c'est un duo, ce Largo et Mesto. Première apparition du mot Mesto dans les sonates de Beethoven, ça veut dire triste. Alors, est-ce que ça vous paraît stupide ce duo d'opéra?
Non. J'ai eu beaucoup de mal aussi dans ce mouvement, si vous voulez. Encore une fois, la formalisation du mouvement en lui-même, ne donne qu'une partie de la rentrée interprétative là-dedans, si vous voulez.
Alors, on vous écoute dans ce Largo et Mesto de la sonate opus 10, numéro 3 de Beethoven, et peut-être que vous allez n'être pas du tout d'accord avec ma conception d'un mouvement, d'un duo amoureux, c'est ce que j'entends.
Thank you.
Michael Levinas pour le Matin des musiciens, c'est sur France Musique, le Largo et Mesto, deuxième mouvement de la sonate opus 10 numéro 3 en ré majeur de Beethoven. Alors, vous nous disiez, Michael, que le rituel formaliste qu'on peut découvrir là-dedans ne rend compte de pas grand-chose, au fond.
Il permet. Disons que, bon, il y a déjà quelque chose dans cette sonate. L'événement, pour moi, musical, sur lequel je centre l'interprétation, c'est à la fin, je vous rejoue un extrait, ça. Quelque chose qui va au-delà, même de la tradition néo-baroque, c'est celle-là. C'est... Écoutez, que l'auditeur écoute ça. Ça, c'est du piano. Ensuite, un chant d'un do ici. Bon, ça, c'est vraiment un événement musical, un événement pianistique, un événement de clavier sur lequel j'ai centré les choses. J'ai eu beaucoup, beaucoup d'interrogations sur ce mouvement-là. Et finalement, ce qui m'a, j'espère, ouvert tout de même les choses, vous avez raison, la question de la différence entre une sonate et une tradition opératique, une tradition, je dirais, de fantaisie, en plus c'est écrit au XVIIIe siècle, est quelque chose d'extrêmement perméable. Et une sonate n'oublie pas l'opéra, même si Beethoven n'a pas été vraiment un compositeur d'opéra, mais toi, un héritier de la tradition baroque. On y revient.
Il avait été aux études avec Salieri, quand même, qui était un fabricant très habile.
Il y a quelque chose là-dedans. Évidemment, une plainte, il y a d'énormes détails. Mais par contre, ce qui m'a aidé, si je puis dire, on peut dire que c'est une forme opératique, c'est de compartimenter les événements. Par exemple, la section, après, on a effectivement la tradition du deuxième motif et dans une tonalité évolutive, je n'attache pas une extrême importance, si ce n'est qu'évidemment c'est un outil de création. Mais il y a quelque chose de l'ordre de l'héroïsme presque oratoire, comme on peut le trouver dans la tradition du rythme pointé à la française et non pas à l'allemande, ce qu'on trouve d'ailleurs dans le début de la pathétique. Écoutez, la déclamation pointée que Chopin reprendra d'ailleurs, qu'on trouve dans l'opus. Le pointitige. Et ce n'est plus baroque.
Alors pourquoi c'est plus baroque ?
Ce n'est plus baroque parce que le piano, dans sa modernité, est dans l'écart acoustique. C'est là qu'il faut travailler au niveau interprétation. Quand vous avez la distanciation acoustique crée une sensation, ce que j'appelle le piano-espace.
Titre de vos œuvres.
Ah, c'est d'une de mes pièces, oui, regardez. Voilà. Cette couleur-là, Beethoven la pressent, notamment dans ce mouvement-là. Et par conséquent, il espace les choses. Et alors après, c'est vertigineux, mais là, je conseille à l'auditeur de regarder cette partition comme on regarde un dessin de, je ne sais pas, un dessin de Raphaël. La figure qui est en dessous est une infinie variété. Écoutez ça. Alors évidemment, la résonance du « la » porte à cette couleur qui sur le piano forte bien sûr sonne autrement, mais oublions le piano forte un moment, par exemple pour entendre ce petit détail que le piano moderne révèle et qu'un grand texte comme ça anticipe, c'est-à-dire que le texte même échappe à Beethoven lui-même. Écoutez cette sonorité, trois sol. Écoutons ça. Même je vous dirais, ou bien encore une fois, l'octaviation. En ensuite fortissimo et en écho. Voilà. C'est de ça qu'est fait cette, je dirais, cette texture pianistique. Alors, j'ai eu beaucoup de mal, j'ai écouté beaucoup d'interprètes là-dedans. Il y a un interprète dans l'histoire de l'interprétation qui a senti cette manière de compartimenter de manière opératique, moi je dirais une sorte de liberté par césure, c'est Richter. D'ailleurs, qui l'interprète un peu plus rapidement que nous tous. Et alors ensuite, à la fin, il y a quelque chose, laissez-moi une seconde rêver avant qu'on quitte ce mouvement, Jean-Pierre.
C'est, je vous laisse.
Oui, il y a quelque chose qui m'évoque, hein, une sorte de fascination pour les architectures acoustiques, liturgiques, par exemple des très très grandes églises construites au 19e siècle, c'est-à-dire le pseudo-gothique. Et ça, je l'entends à la fin dans la plainte. Écoutez ça. Parce que c'est romantique comme intonation. Mais c'est fondé sur l'espace du piano. Comme... comme si la main gauche était l'écho de la main droite. Et d'ailleurs, ce phénomène-là, c'est très intéressant, l'interprétation de Schnabel, il renforce le pouce. Ensuite, il y a la mort du son. Voilà, la distanciation du registre de l'aigu et du grave, on l'a là. Ensuite, on a la disparition du ré, de la tonique. Ça, c'est un phénomène pianistique incroyable. Le ré au-dessus, c'est ça qui m'a fait rentrer dans ce texte, si vous voulez. On croit que ce ré, il est fini, il le brode, mais en reportant le registre jusqu'à l'aigu et en faisant mourir le ré
dans le grave.
Et alors là, je vais anticiper sur le troisième mouvement, c'est qu'en réalité, ce ré et le point d'orgue qu'il écrit annonce un la.
Donc cette sonate est puissamment unitaire, vous
absolument.
Écoutez. Alors, je vous propose maintenant que nous avons un petit peu bagnaudé dans le sublime mouvement lent, que vous jouiez, Michael, les deux derniers enchaînés, un minuetto avec un trio et une reprise, mais sans la réplique initiale, et puis ensuite le final, et vous remarquerez qu'ils sont tous les deux sur des levées. C'est à vous, Michael.
Thank you.
Michael Levinas pour le Matin des musiciens, c'est sur France Musique, et je peux vous dire qu'il y en aura d'autres, des sonates de Beethoven cette année. Eh bien, c'était le Minuetto Allegretto et le Rondo Allegretto qui concluent les deux mouvements, qui concluent la sonate en ré majeur, opus 10, numéro 3 de Beethoven. Alors, Michael, cette sonate, on a vu, est puissamment organisée autour d'un certain nombre de gestes, de notes, de tonalités, de comportements, l'anacrouse.
Mais troisième et quatrième mouvement. Elle est organisée là-dessus, mais c'est en même temps pas complètement là-dessus qu'elle porte. C'est ça qui est mystérieux, c'est ça qui pour un interprète est fascinant. Je veux dire, c'est là-dessus que j'ai passé beaucoup de temps comme interprète, si vous voulez.
Cette sonate a un menuet. À 3-4, Dolce.
Oui.
Et puis un trio plus continu, en triolet. C'est assez surprenant comme mélange. Mais en fait, vous allez m'expliquer que c'est tout à fait logique.
Oh, je ne sais pas si je peux expliquer que c'est tout à fait logique. Ce que je peux dire, simplement, donner une petite confidence aux auditeurs et surtout aux interprètes. De la manière dont j'ai travaillé, je n'ai pu faire sonner le mouvement, le menuetto, si vous voulez, qu'en considérant, en travaillant essentiellement dans la première partie du menuet, la série des accords. Si vous voulez, c'est vraiment là-dessus. Vous voyez ? Voilà. Et ensuite, évidemment, ça a l'air très naïf, mais c'est essentiel. Je suis arrivé à le faire sonner, j'espère, avec cela. Et évidemment, il y a une toute petite chose qui me fascine, et après on parlera du dernier mouvement.
Le sforzando.
Il y a le sforzando
qui est bizarre,
fortissimo.
Là.
Non, non, il est intéressant ce sforzando parce qu'il reprend qu'on a eu un registre avant. Cette fois-ci, ce qui permet de reprendre pianissimo, et refaire une montée en gagnant en registration harmonique. Alors ça, c'est tout de même intéressant de le dire, c'est que le potentiel modulant, si vous voulez, cette puissance du système tonal, je ne peux pas dire qu'elle ne me fascine pas comme compositeur. Voilà, là-dessus, je pense qu'il ne faut pas cracher sur les gens qui s'interrogent sur la fonction, l'histoire de la tonalité. Dans la création, c'est autre chose que la résonance ou que la cohérence harmonique. C'est un processus de gris. Évidemment, ça permet de faire monter l'expression de la mélodie plus haut. Il faut bien dire les choses. Il y a une puissance expressive là-dessus qu'on n'a pas dans la première section. Et alors, l'autre point qui va nous amener sur le dernier mouvement, bien sûr, c'est cette fameuse anacrouse, qui est une anacrouse très allemande, cette fois-ci.
Écoutez, qu'est-ce que vous appelez une anacrouse allemande ?
Eh bien, non, le son.
Ah.
C'est, si vous voulez, c'est... Ça sonne, malgré tout, comme des trompes. Je dirais, on est très, très près du cor de chasse et on est très, très près de la poésie pan-germaniste de l'instrument avant du cuivre, bien dans son cuivre.
Et c'est le jeune Siegfried, si je vous entends bien,
déjà. Il y a là quelque chose qu'on trouvera chez Schumann, d'ailleurs, qu'on trouvera, d'ailleurs, dans ses phrases. Hein. Et en plus, c'est très très caractéristique. Très caractéristique, c'est une danse. C'est une forme bien dans sa race.
Alors, c'est une danse, mais c'est aussi une série de variations. Non, c'est quoi exactement à écouter ?
Le final est très... alors, c'est vraiment... Oui, bien sûr, c'est un système de variations, mais dans le travail de ce final, dans ce travail... Écoutez, je vais très brièvement vous dire une espèce d'historique de mon travail sur ce final, qui est un passage du 20e à... une autre préoccupation. Ce que j'ai vu quand j'ai fait l'intégrale...
Du XXe siècle ?
Oui, bien sûr.
À quoi ? Au XXIe ?
Je ne veux pas trop sacraliser les siècles, mais les perspectives peuvent évoluer avec le vieillissement. Et voilà, c'est quelque chose. J'ai vu ça autrement aujourd'hui. Bien sûr, j'étais très, très fasciné par quelque chose qui a fasciné Beethoven. Ce qui a fasciné Beethoven, me semble-t-il, dans un premier temps, c'est à la fois un héritage mozartien, c'est-à-dire quelque chose qui est de l'ordre, regardez, question, antécédent. En attente, on dirait une scène d'opéra. Ensuite, je le commande presque de manière très banalement rhétorique, si vous voulez. Interrogation. Et après, on dirait une scène de Don Juan. Bon. Ensuite, ça repart. Interrogation. Mais on retrouve là la fameuse suspension du premier mouvement. Là, on a une section développante de cette forme. Et ensuite, nous passons à une nouvelle interrogation. En somme, toute la structure interprétative de ce mouvement, il est fait sur cette sensation presque d'un jeu, je dirais, pourrait d'un jeu, entre, excusez-moi, c'est pas mon style généralement, mais ambivalence entre une Zerline et un Don Juan qui se cache la question. Il y a un mouvement de danse de type mozartien dans la manière dont s'organise cette, ce
mais
mouvement.
Mais il y a tout de même, Michael, la même chose qui nous a fascinés dans le premier mouvement, ces points d'orgue permanents qui arrêtent,
alors,
qui arrêtent
le temps. Et là, il devient théâtral, mm-hmm. il devient théâtral. Et si on ne le sent pas comme ça, et si on ne sait pas, par exemple, que l'interrogation doit être rythmiquement basée sur un système de interrogation, et ensuite... Et toutes les formes de variations qu'on ne peut pas dérouler, nous n'en avons pas le temps aujourd'hui. Mais évidemment, le système développement beethovenien fait que c'est à chaque fois varié et le système modulant permet de le faire. Mais il y a quelque chose de plus sournois dans ce mouvement-là qui peut détourner de l'expressivité et qui est pourtant essentiel et qui a fasciné Beethoven et qui, à mon avis, a fasciné les grands hommes du XXe siècle, c'est-à-dire le système du renversable infini. C'est-à-dire, vous avez deux lignes. Et ensuite, évidemment, on a un arpège et une ligne d'une seconde mineure et une tierce. Et il va sans cesse jouer sur le jeu renversable. Regardez. Et là, on a Beethoven, effectivement, c'est-à-dire l'invention pour le pianiste de figures qui ont l'air de figures... Bon, ça, on trouve ça chez Dussek.
Mais ce qui est très frappant tout de même, c'est que, Michael, vous, de ce que vous dites là, c'est la nature même du thème de l'Allegro. Parce que les deux figurations sont ascendantes sur la clé de sol et descendantes sur la clé de fa. On a l'ambiguïté dès le début.
On a en même temps ce qui fascine les analystes, mais qui n'aide pas les interprètes, c'est le jeu sur le mouvement ascendant et descendant qu'on a depuis le début de la sonate. Mais... il faut faire très, très, très attention parce que ça fascine, si vous voulez, ça fascine, par exemple, des figures. C'est de la très, très grande polyphonie. Si on regarde ça, si on prend la partition, on a un véritable exercice contrapointique. Mais je vais vous montrer comment la phrase va s'achever à la fin. Ça, c'est impossible du devenir de la fragmentation du motif et cadentiel. Et d'ailleurs, cette fin fait étrangement penser aux fins de la pastorale. Dans toute la fin du mouvement. Mais ce mouvement est à la fois un système de variation et de renversable, mais il n'est possible en termes d'interprétation qu'à partir du moment où, d'une part, on fait le lien avec la question de la suspension dans le premier mouvement, de l'anacrouse, bien sûr, et effectivement du mouvement mozartien. C'est-à-dire comment Beethoven transforme la suspension du début du premier mouvement en, je dirais, en suspension pseudo-théâtrale de tradition mozartienne.
Alors, ce qui est impressionnant là-dedans, c'est que précisément, les quatre derniers systèmes sont extraordinaires dans ce mouvement de double croche, et ce mouvement s'évanouit comme si les personnages disparaissaient.
Alors
ça c'est dramatiquement extraordinaire.
C'est très extraordinaire, parce qu'évidemment, comment termine un mouvement ?
Pouvez-nous le rejouer, c'est
bien sûr.
Quelques...
J'ai pris ça chez Schnabel. C'est la manière d'utiliser le système des syncopes comme faisant partie du motif et non pas une idée nouvelle. Voilà. Mineur, ça c'est très mozartien. Ensuite, c'est un choral. Forte piano. Mettons sur la tonique. C'est-à-dire qu'il connaît, il sait, là c'est le piano moderne qui apparaît, il sait que c'est un instrument qui sait faire entendre l'extinction du son. Vous voyez, et ça, en même temps, on retrouve ça, le principe sur la tonique de la pastorale. Ça, c'est la sonate. Ça, c'est, mettons, la pastorale. D'ailleurs, c'est la même figure. Voilà. C'est vraiment des figures qui se situent entre le 18e et le 19e siècle.
Alors, Michael, c'est une belle conclusion. On peut peut-être se... quitter en parlant de la suspension dans la première sonate, par exemple.
C'est-à-dire qu'on a vu une suspension de type théâtral, presque à la fois de variation et de réitération. Moi, cette question de la suspension a été pour moi, dans cette sonate, le cœur même du travail de l'interprétation. C'est sur les la, sur le fa dièse et sur ce silence du dernier mouvement. Et c'est certain que c'est une suspension, brusquement, qui m'a ramené à mon premier contact avec la sonate beethovenienne, c'est-à-dire la suspension, j'y reviens, de l'opus 2, numéro 1. Donc c'est une problématique vraiment beethovenienne. C'est-à-dire cette suspension, le premier geste beethovenien dans une sonate, ça a été la suspension. La suspension, c'est-à-dire au lieu que ce soit l'antécédent et le conséquent, comme dans cette sonate, c'est une suspension où le thème, au lieu d'avoir un conséquent dans la première sonate, est une réponse de type fugué.
Thank you.
Le premier mouvement de la sonate opus 2 numéro 1 de Beethoven, interprété par Gulda en 1967, Friedrich Gulda, à la demande de Michael Levinas, que je remercie beaucoup de s'être prêté à notre première émission sur les sonates de Beethoven. Il y en aura d'autres cette année. La semaine prochaine, ça sera tout à fait autre chose. J'essaierai de réfléchir sur l'opéra après Wagner et je m'occuperai d'un certain Debussy avec Péléas et Mélisande. Grand sourire de Michael Levinas qui connaît très bien Debussy, entre autres choses. Nous étions aujourd'hui en compagnie de Géraldine Brutner, Pierre Mine, Philippe Mercher et Véronique Kerdiles. Je vous souhaite un excellent week-end à l'écoute de France Musique et j'espère vous retrouver vendredi prochain, fidèle au poste, comme l'on dit, à 11h02 pour Péléas et Mélisande après Wagner. Merci Michael Levinas.
Au revoir.